Bonjour, ici Chantal Doré au micro d'Inclusion Inc., un balado sur les initiatives des entreprises pour favoriser un milieu de travail inclusif qui fait la belle part à la diversité. Inc. comme inclusion, Inc. comme incorporé, qui réfère aux entreprises ou aux organisations. Qu'elles soient à but lucratif ou à vocation sociale, les entreprises ont un rôle à jouer comme milieu d'accueil. Poursuivons notre discussion avec des conseillers en équité, diversité, inclusion au sein de différentes entreprises et organisations. Aujourd'hui, ce sera le cas d'une organisation, qui nous concerne tous parce qu'il s'agit du secteur de la santé. Nous recevons M. Gonzalo Carvajal. Bonjour, Gonzalo.
Bonjour, Chantal.
Alors, vous êtes conseiller en EDI, donc au Centre intégré de santé et services sociaux Montérégie-Ouest.
Oui, c'est ça. Okay.
Donc, peut-être juste nous expliquer là, la juridiction de ce que fait l'organisation. Qu'est-ce que le CIS gère exactement?
Le CIS gère en ce moment, tout dans mon établissement, sont environ 12 000 employés. Et toute la région de l'Ouest, de la Montérégie, vous pouvez vous nommer Châteauguay, Salaverry, Kanawake, Awesasne, c'est pas mal ça, c'est le côté de l'Ouest en général.
Et les employés, quel type de fonction ils font au quotidien pour la population de ces secteurs?
Surtout, on peut parler des cliniques, des hôpitaux, centres d'hébergement, les différents types de centres d'hébergement, et aussi on parle aussi des intervenants sur le terrain aussi.
Donc, vraiment, au sens large, autant vaccination, j'imagine?
Je pense que je n'ai pas la réponse exacte à cette question.
Okay. De toute façon, on va vraiment aller parler plus de EDI, mais il reste que c'est un centre intégré. Donc, il y a plusieurs services de santé, services sociaux qui sont prodigués, là, qui sont vécus au sein de l'organisation. Depuis quand vous travaillez à cet endroit?
J'ai débuté ma fonction dans les mois de mai de l'année passée, 2024.
D'accord. Et quand vous êtes arrivé, quelle était la pratique en EDI au SISMO?
La pratique, ça a été... Il avait déjà un très, très bon avancement, il y en a l'EDI. Ça fait environ 3 ans avant mon arrivée, ils ont décidé de développer un comité d'équité, diversité et inclusion pour commencer à développer les plans d'action futurs. Donc, je travaille actuellement et ça a été un très, 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 très bel travail en lien de différents départements investis aux initiatives en équité, diversité et inclusion.
Et parlez-nous un peu de votre travail au quotidien. Là. Comment vous aidez les gestionnaires dans leur pratique du quotidien?
On a développé notre service vraiment intéressant lors de mon arrivée. Et on a divisé notre offre de service en 3 grandes sections, dans la sous-section soutien, et formation et bien sûr le partage et le rayonnement. Donc, mon jour à jour, c'est ça, c'est donner le soutien aux différents appels, courriels, demandes de formation, demandes de soutien dans différents cas spécifiques. Mais c'est ça, c'est donner plus le soutien au quotidien, c'est ça. Ce que j'ai fait le jour à jour, c'est travailler sur les différentes formations spécifiques en lien à nos enjeux à l'interne. Et aller faire aussi des partenariats avec des organismes à l'externe aussi.
OK. Et quand vous parlez de formation, quel type de formation vous donnez?
On donne des formations, par exemple, aux gestionnaires en lien du leadership inclusif. On parle pourquoi l'inclusion... C'est important pour comment arriver à un moment dans lequel on peut parler de l'inclusion, donc parler d'accueil intégration avant de parler d'inclusion, d'avoir un très très bon processus d'accueil aux différentes personnes. ce type de formations qui sont vraiment liées au jour à jour. Et les formations liées aussi à les biens inconscients, qui est aussi nos gestionnaires et nos équipes comprennent c'est quoi l'intersectionnalité, les différents chapeaux qu'une personne puisse porter. Ce type de formation qui donne surtout des outils aux différents gestionnaires de département pour bien avancer dans notre jour à jour.
Donc, pour le bénéfice de nos auditeurs, on a eu l'occasion de parler dans la première série d'Inclusion Inc. de bien conscient, mais peut-être s'il y a des auditeurs qui se joignent à nous maintenant, expliquez-nous ce que peuvent être les biens inconscients.
Les biens inconscients, c'est des croyances, des fois des préjugés qui sortent de notre tête en lien à, par exemple, on connaît une personne et parfois, par exemple, son apparence physique. On vient d'une culture, par exemple, moi, comme immigrant, on vient d'une culture différente, on vient d'une formation à la maison aussi différente. Un bien inconscient, ça sort en lien à tes propres croyances, ce que tu as vécu dans ta famille, ta société proche, ce que tu vois aussi au télé. Ce sont des stéréotypes qu'on se développe dans la tête. Et après ça, dans le moment d'interagir avec une autre personne, plus de les voir comme une personne, comme un humain, tu commences peut-être à les juger, je vais utiliser les mots, les juger en lien soit à son apparence, soit à sa culture, soit à même les vêtements que la personne porte. Donc, c'est ça le bien inconscient. Avant de connaître bien la personne et mieux comprendre, de voir la personne comme une personne comme un humain.
Donc, on va regarder la personne et on se fait déjà une idée sur la personne. Comme vous dites, on va juger, on va évaluer parce qu'on se dit, bon, c'est un immigrant ou c'est membre d'une autre communauté culturelle. Et tout ce qu'on pense de cette communauté-là ressurgit avant même d'avoir écouté la personne. Donc, ça vient un peu, comme vous le dites, c'est des biens conscients qui vont faire en sorte qu'ils nous influencent dans notre évaluation d'une situation.
D'une situation d'une personne, et même on peut parler aussi des biens inconscients par rapport à dans un processus de recrutement d'embauche d'une personne.
De recrutement, aussi, oui.
Mais oui, de recrutement. Et dans les moments de l'entretien avec la personne, les biens inconscients sont là toujours dans notre inconscient, mais c'est ça de nous mieux préparer pour arrêter, bien analyser et dire OK. Qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qui s'en vient dans ma tête en ce moment, et comme c'est la meilleure approche, la meilleure façon de réagir après toutes les personnes dont on trouve en chaque moment. Et dans ma vie passée, je travaille dans beaucoup de temps dans les milieux hôteliers et touristiques,
oui.
Et on parle du moment de vérité.
Le moment de vérité.
C'est le moment dans lequel on a en face d'un client. Et c'est la première fois que la personne arrive à notre établissement, soit un hôtel, et c'est la première perception que la personne va recevoir de notre établissement, peut-être que ce soit à la réception, par exemple. C'est un moment, chaque fois qu'on rencontre un client, c'est un moment de vérité. Et c'est ça qu'on parle au niveau de culture. Chaque fois qu'on rencontre soit un usager, soit une personne, un collègue, c'est un moment de vérité au niveau culturel. Et il faut arrêter, penser, réfléchir pour mieux agir aux différentes personnes, aux différentes personnalités.
Mais quand vous dites un moment de vérité versus un biais inconscient, où se situe la vérité?
Le lien dans ces deux concepts, c'est que dans les deux cas, il faut arrêter, il faut réfléchir, il faut voir la personne en tant que personne humaine, pas regarder, OK, c'est une immigrante, c'est une personne d'ex-culture, ou c'est une personne qui ne parle pas français, ou je ne sais pas, plein de choses que des fois ça s'en vient en tête. Donc, il faut, pour les deux choses, il faut s'arrêter pour mieux agir auprès de la personne, pour mieux comprendre leurs besoins et pas simplement penser et donner un avis sur la personne qui peut-être se soit vraiment honnête. Différent à ce que la personne en réalité.
Là, je suis d'accord avec vous, s'arrêter, réfléchir. Peut-être que certains de nos auditeurs diront, mais dans le monde fou dans lequel on est, on n'a pas le temps de s'arrêter pour réfléchir. Donc, comment réussir à faire cet exercice-là, mais rapidement?
Mais oui, dans mon cas, écoute, je pense que dans mon travail en lien à l'équité, diversité, inclusion, je dois me déconstruire tous les jours parce que des fois, quand j'arrive à dire, OK, je comprends tel concept, ce n'est pas le cas. Une semaine après, je dois me reconstruire une idée dans ma tête. Mais c'est ça, nous connaître nous-mêmes au début, faire le travail à l'interne et ça va commencer à ressortir plus naturellement.
Donc, j'entends qu'il faut refaire l'histoire dans notre tête, être ouvert peut-être aux nouveaux renseignements qui arrivent.
Oui.
Parce que si on se bloque et on fixe notre impression que, par exemple, cette communauté culturelle-là est de telle manière, bien là, nos biens inconscients vont faire en sorte qu'on entend, on n'est pas réceptif aux nouvelles informations qui arrivent. On se bloque.
Oui. Mais oui, c'est ça. Il faut quand même se préparer, soit pour les personnes qui portent les biais, comme dans une interaction pour la personne qui va recevoir quand même peut-être un biais. Moi, comme immigrante qui vient de la Colombie, j'ai déjà dû passer pour plein de personnes qui me posaient plein de questions en lien à mon pays, à mon origine, qui sont quand même des biais. Et ce sont des biais développés soit pour tout ce que la personne regarde à la télé, pour les nouvelles, bref. Mais c'est ça. Si je fais l'autoconnaissance, je comprends quels sont mes biais et je travaille sur moi et je suis ouvert à recevoir de nouvelles informations par rapport soit à une culture, soit à une personne, même soit que ce soit à la fin. Et ça va devenir naturellement mon approche et mon agir rapidement pour avoir une meilleure approche avec les différentes personnes.
Quand vous constatez chez un gestionnaire qu'il a peu d'ouverture, qu'il semble assez fermé, parce que si on le constate en dehors le deal, en communication, on voit qu'il y a certains gestionnaires qui n'ont pas énormément d'écoute, qui sont très, très orientés vers l'action. Comment vous leur vendez l'idée que ça sera important de développer une posture d'écoute?
Écoute, à date, je ne dois pas passer par ce type de situation, mais si cette situation, ça m'arrive à moi, je pense que le côté sensibilisation, aller les rencontrer, plus comprendre au début pourquoi sa façon, pourquoi sa pensée en lien à ça. Et des fois, c'est plus la méconnaissance ou l'information que la personne reçoit du milieu. Mais c'est ça, c'est plus de je me suis rendu compte depuis que j'ai commencé à travailler dans le sujet qui était juste l'inclusion, des fois, beaucoup des enjeux se sont liés plus à la méconnaissance de n'importe quel sujet. Donc, moi, je suis plus d'une approche proche. Donc, d'aller rencontrer les personnes, parler avec eux, écouter les pourquoi avant d'aller proposer n'importe quelle chose qui va pas fonctionner. Non, c'est ça. Je pense qu'une approche de côté sensibilisation, de comprendre quelle est la méconnaissance, quel sujet je dois traiter et améliorer pour couper la méconnaissance des personnes en lien à n'importe quel sujet, ça aide beaucoup avant qu'ils allaient proposer plein de choses. Et il faut adapter quand même la culture du leader. Et il faut qu'on s'adapte à la culture des différents leaders pour à la fin arriver à comprendre les pourquoi et après ça, pouvoir arriver et aider soit la personne, soit le gestionnaire, soutenir le département.
Vous nommez la méconnaissance. On remarque que globalement, souvent, les gens qui en savent le moins, souvent sont certains de ce qu'ils pensent et les gens qui en connaissent beaucoup vont être plus tendance à douter. Je pense qu'il y a même un effet psychologique qui s'appelle... Dunning-Kruger, oui, où vraiment, là, tout à coup, ben c'est ça, on en sait beaucoup, mais on doute. Et donc, comment vous arrivez, en tenant compte de ça, à sensibiliser les gens qui sont sûrs de ce qu'ils pensent?
On doit démythifier. Et c'est ça la meilleure façon dont j'ai trouvé avoir une approche, démythifier toute l'information qui peut-être... On a pas mal de stocks en moi, dans mon cas, j'ai pas mal de stocks en tête. Excuse-moi?
Quand vous dites du stock en tête, de la documentation, des outils?
D'informations en lien à la démystification de différentes informations. Et on commence par rapport, par exemple, à démystifier c'est quoi l'édit et pourquoi l'édit est important dans une entreprise. Et on donne la suite au niveau de démystifier c'est quoi une personne immigrante. Et c'est vrai qu'une personne en situation de handicap ne peut pas travailler. Et c'est vrai que toutes les personnes ont besoin de plein de commandements. Ce type de sujet dont j'ai dû déjà travailler souvent depuis que j'ai commencé avec l'équité, diversité, inclusion, ça aide beaucoup. Si on essaie de démystifier et de bien informer les personnes en lien à ce manque d'information, à moi, ça a beaucoup m'aider en lien pour développer des différentes actions et différentes initiatives.
OK. Donc, ça vous a aidé à développer différentes actions, initiatives. Je sais que vous avez développé plus particulièrement une offre de service auprès de 4 grandes clientèles. Je vais les nommer rapidement pour ensuite les passer en détail. Donc, personnes immigrantes, personnes des Premières Nations, Inuit, les travailleurs de plus de 55 ans et les personnes judiciarisées. Quelle sorte, justement, peut-être qu'on peut parler, quelle sorte de bien conscient les gens peuvent avoir par rapport aux personnes immigrantes?
Oui, une petite déclaration. C'est comme dans mon ancien, quand j'étais en coordonnateur de projet des ressources humaines et qui était juste inclusion dans mon ancien travail.
C'était...
Le comité consultatif avec le Conseil québécois des ressources humaines et du tourisme. J'ai travaillé avec différents comités consultatifs. On a développé une initiative en lien à différents comités de travail pour l'inclusion des personnes, de différentes personnes de différences interculturelles pour les aider à l'inclusion au travail dans le secteur hôtelier et touristique. Et c'est ça. Si on parle des enjeux en lien aux personnes immigrantes.
Oui.
J'ai déjà vécu quelques informations comme ça. On peut commencer avec, par exemple, nos études. Des fois, quand on fait la recherche de notre premier travail avec 100 expériences québécoises ou canadiennes d'emploi, c'est un peu difficile. Parce que les gens pensent que peut-être si on vient d'un pays qui s'appelle la Colombie, on est moins de niveau de études, par exemple, et qu'on aurait besoin de beaucoup d'accommodements pour parler le français
Mais j'imagine, là, vous parliez de tourisme, sont probablement les premiers. Une personne immigrante va peut-être plus rapidement trouver de l'emploi dans des secteurs liés à la restauration ou l'hôtellerie, oui. Bien que ce ne soit pas, par exemple, sa formation de base, parce qu'elle doit apprendre le français pour certaines personnes, améliorer son langage. Donc, souvent, les gens vont commencer... Puis dans plein de secteurs, on l'a vu avant dans le taxi, avant Uber, des gens qui étaient très bien diplômés dans leur pays qui, tout à coup, se retrouvaient dans des postes parce qu'il y a toute l'équivalence, les équivalences qui n'étaient pas reconnues. Ça doit être extrêmement difficile à vivre pour les personnes, là, sachant qu'on a les connaissances pour vouloir travailler dans notre domaine, mais on se retrouve à faire du taxi ou à travailler dans l'hôtellerie. Mm-hmm. Est-ce que c'est oui. quelque chose que vous avez vécu, vous, quand vous êtes arrivé ici?
Moi, oui. De plus, avec l'équivalent, c'est l'évaluation comparative, on s'appelle ça, avec les MIFI, à ce moment-là. Et ça n'était pas facile à trouver un premier emploi, même dans mon cas personnel, j'étais accompagné pour un organisme communautaire pour me donner comme toute l'information en général, pour bien adapter mon CV, pour qu'est-ce qu'on doit faire dans une entretien, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. C'est quelque chose quand même à préparer parce que, on le dit dans ma langue maternelle, l'espagnol, c'est quelque chose que je pourrais faire facilement. Mm-hmm. Mais dans le français, ça change beaucoup. Ça change beaucoup comme les yeux un peu, la dynamique. Et donc, oui, c'est pas facile, même j'ai vécu ça. Mais je pourrais dire que ça me donnait plus de la force pour continuer soit à améliorer mon français, soit pour mieux me préparer. Je l'ai vu dans mon cas personnel, parce que c'est mon avis personnel, je l'ai vu plus comme un moment d'apprentissage. Et parce que même avant de venir, avant d'émigrer, on avait quand même pris beaucoup d'informations, on a beaucoup fait la recherche, parce que pour mon cas personnel, c'était quelque chose, c'était un grand changement de vie, un peu comme ça.
Oui. Ben, il n'y a pas, dans votre travail comme consultant en EDI, comment vous les aidez, les gestionnaires, à ce niveau-là? Parce que moi je retiens que c'est un grand moment dans une vie où on déploie beaucoup de stratégies d'adaptation et j'ai l'impression que c'est des qualités qui sont utiles à un employeur. Comment vous expliquez aux gestionnaires qui doivent recruter d'être sensibles au fait que là, on a des personnes là, t'sais, qui font preuve de résilience et ça fait en sorte que ça peut être un employé qui est... Ben, c'est ça, là, qui a du courage.
Oui, je pense que... Chantal, je pense qu'il faut quand même parler des attentes claires. Ça a beaucoup m'aidé dans mon expérience personnelle et après, c'est plus que nous, comme gestionnaire, on communique les ententes claires et m'assurer que la personne comprenne les attentes qu'on a besoin et moi, prendre le temps de comprendre les attentes et les besoins de la personne. C'est un côté, c'est une 360. On a besoin en tant que gestionnaire de telle chose pour bien accomplir, pour bien arriver à la fin au travail, on pourrait dire comme ça, et quelles sont tes attentes en tant qu'employé, quels sont tes besoins, qu'est-ce que tu attends de moi en tant que gestionnaire, quel est l'accompagnement dont tu aurais besoin pour bien faire bien ton travail les jours à jour. Je pense qu'une communication transparente, c'est vraiment important du côté gestionnaire et du côté employé, et qu'on donne la chance aussi aux employés de nous parler quels sont leurs besoins et les aider. Je pense qu'au début, ça fait beaucoup la différence si je pense à mon cas personnel. Mm-hmm. C'est ça. J'ai eu un très, très bel accompagnement au début dans mon premier travail de professionnel ici. Après ça, ça a été plus facile pour moi, mon adaptation à la culture d'entreprise québécoise, on peut le dire comme ça.
Et dites-moi, ben c'est sûr, vous avez développé une spécialité, comme on le disait, auprès de d'autres communautés. Prenons par exemple l'exemple des personnes judiciarisées. Bon, tu sais, certains gestionnaires vont dire tout le monde a droit à une seconde chance. D'autres vont dire non, je ne veux pas embaucher de personnes qui a eu un casier juridique ou autre. Comment vous aidez les gestionnaires à évaluer le risque par rapport à ça ou à considérer ou pas une candidature d'une personne qui a un casier judiciaire?
Dans le moment dans lequel j'ai travaillé avec ce comité, on était toujours accompagné de comités consultatifs en lien à personnes avec une casier judiciaire. Donc, on a un très, très bel accompagnement et c'est ça la meilleure façon d'éduquer et passer un bon message en lien à la réinsertion de personnes. On a tous un droit et il y a aussi des programmes en ce moment dans lesquels je travaillais, il y avait des programmes et des initiatives et des projets assez intéressants pour que les entreprises puissent participer et comprendre un peu la réalité de la réinsertion sociale et les différents besoins qui ont les personnes avec une casier judiciaire. Donc, on travaille ensemble avec les comités consultatifs. C'est plus ça. On était avec les experts dans les sujets. Et notre première étape en ce moment, c'était plus le côté sensibilisation, et aller chercher les entreprises qui vont participer au processus de sensibilisation pour mieux comprendre ces clientèles-là.
Gonzalo, en terminant, je vais vous poser la même question pour les travailleurs de 55 ans et plus. Comment vous travaillez avec les gestionnaires pour qu'ils s'ouvrent à considérer la candidature de personnes plus âgées?
C'est plus de préparer bien les milieux au début par rapport à les chocs culturels en lien à la différence des AH, la intergénérationnalité.
Oui.
Ils ont développé beaucoup de séances, de webinaires, de formations pour préparer les différents milieux pour que les futurs gestionnaires ou même les personnes dans un processus de recrutement mettent à côté les billets et avoir meilleurs outils aux personnes qui vont travailler les jours à jour avec un contexte intergénérationnel. Donc, ils ont développé des formations, des webinaires et des accompagnements pour mieux outiller les personnes. Ce sont à la fin de ce que je vais nommer tantôt, c'est plus du côté, on va démystifier les différences culturelles pour mieux avancer dans l'inclusion des différentes clientèles dans notre milieu de travail.
Merci beaucoup, Gonzalo. Donc, vous êtes conseiller EDI au Sismo Montérégie. Et je vous remercie d'avoir été avec nous, puis je retiens l'importance d'écouter pour démystifier. Merci beaucoup.
Merci. C'était un plaisir d'être aujourd'hui avec vous.
Au revoir.